Un motard a perdu la vie ce matin à Boulou-Paris. Un homme de 58 ans a été victime d'une sortie de route. Une enquête ouverte pour tentative de meurtre à la fois. Un homme a refusé de se soumettre à un contrôle routier avant de percuter un gendarme grièvement blessé à la jambe. Christopher Gégès, invité de Transparence, le membre du gouvernement, revient sur le plan de sauvegarde et de reconstruction préparé par le gouvernement. Farino à l'heure du verre de Bancoul. Dégustation à gogo ce matin au marché de Mamie. Première expérience au gastronome averti. Témoignage à suivre dans ce journal. En métropole, premier déplacement officiel à l'hôpital Necker à Paris pour le Premier ministre. Nous pouvons faire des progrès, mais pas de miracle, dit Michel Barnier. Et puis les Jeux paralympiques, l'équipe de France de cécifoot remporte le titre à Paris. Les Bleus ont battu l'Argentine aux tirs au but. C'est le premier sacre des tricolores dans cette compétition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Info Week-end. Actualité marquée hélas par cet accident mortel survenu sur la RT1 ce matin. Un motard a perdu la vie dans une sortie de route sur la commune de Boulou-Paris après le pont de la Ouaménie. Son deux roues a quitté la chaussée pour une raison encore indéterminée. Un secouriste qui se trouvait dans la zone a tenté de lui prodiguer les premiers soins, mais en vain. La victime était âgée de 58 ans. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui porte à 16 le nombre de décès dans des accidents de la circulation depuis le 1er janvier 2024 en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, un gendarme a frôlé la mort à la fois hier, en début de soirée, au cours d'un contrôle routier anti-délinquance dans le centre du village. Les militaires filtraient les véhicules lorsqu'un conducteur a refusé de s'arrêter avant de percuter volontairement le gendarme et de prendre la fuite vers Fontoiry. Grièvement blessé à la jambe, le militaire a été rapidement pris en charge et évacué vers le CHT. Selon un dernier bilan, son pronostic vital n'est pas engagé. Le véhicule, un Chevrolet Captiva, a été retrouvé quelques heures plus tard par les gendarmes à Saraméa et une enquête judiciaire est ouverte. Le conducteur du véhicule est activement recherché. Au vu de la manœuvre délibérée du conducteur pour forcer le barrage, précise ce matin le procureur de la République Yves Dupas, le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. La brigade de recherche de Nouméa est saisie de l'enquête. Christopher Gégès, invité d'Elisabeth Noir, vendredi midi dans le magazine Transparence. Le membre du gouvernement s'est félicité de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre et il a salué l'action de Bruno Le Maire en faveur de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Il a ensuite été interrogé, Michael Juneski, sur la situation économique de la Calédonie et sur le plan S2R préparé par le gouvernement.
Christopher Gégès parle d'une situation économique cataclysmique, mais il affirme que l'on est en train de se relever, même si le retour à l'ordre public est une condition préalable à la reconstruction. C'est dans ce contexte que le gouvernement a préparé un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction pour la Nouvelle-Calédonie, en commençant par la sauvegarde.
C'est du très court terme. C'est comment on finance le chômage partiel, c'est comment on finance des aides aux entreprises complémentaires, c'est comment on accompagne Enercal pour garantir de l'électricité aux Calédoniens. Et ça, c'est conditionné à un certain nombre de mesures. On en a déjà passé certaines, puisqu'il y a eu la réforme de la CLR qui est passée au Congrès, il y a eu la réforme sur le système électrique également, qui a débloqué un certain nombre de subventions, ainsi que les financements pour le chômage partiel. Et donc la sauvegarde, c'est vraiment du très très court terme pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de tenir et de pouvoir passer cette première étape avant de refonder et reconstruire.
11 thématiques d'urgence ont été déterminées et il faut avancer. On n'a pas le choix, affirme Christopher Gégès en évoquant les volets refondation et reconstruction. Mais on ne peut pas reconstruire sur des bases qui ne sont pas saines et c'est une condition posée par l'État. Il faut simplifier et rendre la Calédonie attractive, mais on est obligé de tout faire en même temps parce que tout est lié. Et dans la partie reconstruction, refondation, 4 modèles ont été identifiés.
Partie modèle économique et social, le modèle de santé, le modèle institutionnel et le modèle sociétal. Le modèle économique, il faut simplifier la vie des entrepreneurs calédoniens. Il faut définir des filières d'avenir de long terme. Il faut qu'on soit en capacité de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens en baissant drastiquement les charges sociales pour que ça soit redistribué en augmentation de salaire. La partie modèle de santé, on a plus les moyens de financer notre système de santé comme il l'a été. Donc là aussi, il va falloir faire des économies de manière massive, notamment une numérisation de la santé en Nouvelle-Calédonie qui nous fera faire des économies. Le modèle sociétal, où on a un travail important, enfin le lien social en Calédonie, il a pris un coup quand même avec ce qui s'est passé. Donc il y a quand même un travail de vivre ensemble qui passe peut-être par l'éducation, par la formation, par d'autres choses, qu'il va falloir quand même rebâtir avant qu'on puisse repartir sur des fondations solides. Et enfin, sur la partie institutionnelle, sans rentrer dans des discussions d'un grand accord, au niveau institutionnel, on a trop de directions, on a trop d'établissements publics, on a un millefeuille administratif où plus personne ne comprend rien. Donc autant y aller maintenant, on n'a plus les moyens de financer ce genre de choses.
L'objectif avec ce plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, c'est de mener une démarche concertée avec les institutions, les élus, la société civile et la population. Interrogé sur le gouvernement après la démission de Vahimo Amouliava, Christopher Gigès révèle qu'après des incertitudes, c'est bien Laurie Oumouni qui va siéger dans l'exécutif.
Il semblerait que des bruits de couloir, que ce soit Laurie Oumouni qui monte au gouvernement. Mais ça ne déclenche pas un grand enthousiasme de ma part. Je laisserai les autres membres du gouvernement s'exprimer, mais il va falloir que Mme Oumouni comprenne comment fonctionne le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qu'elle prenne la mesure des responsabilités qui sont les siennes quand on devient membre du gouvernement. On n'est plus un militant politique, on est membre du gouvernement. On a des choses à gérer.
Et quand on lui demande si Vahimo Amouliava a eu raison de démissionner, Christopher Gigès répond que tout ce qui permet de sortir Rocoamitan de la présidence du Congrès est une bonne chose. Il affirme par ailleurs qu'après un certain nombre de rumeurs et de velléités, il n'y aura pas de chute du gouvernement Mapu, mais il estime que les élections provinciales ne peuvent pas être organisées d'ici la fin de l'année.
Avant le 15 décembre, ça serait une folie. Enfin, ça serait une folie pour plusieurs raisons. Matériellement, on n'a pas le temps de s'organiser pour organiser des élections d'ici la fin de l'année. L'urgence, elle est surtout à préserver les entreprises, à préserver les emplois, à préserver les associations, à préserver la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble plutôt qu'à d'aller faire campagne. Et vous savez très bien que quand on fait campagne, on n'a pas la responsabilité que quand on est hors campagne. Je pense qu'un des premiers sujets de Michel Barnier sera de confirmer que les élections auront lieu l'année prochaine et qu'on nous laisse un peu de temps, un, pour stabiliser. Vraiment, le temps n'est pas aux campagnes électorales. Le temps est à sauvegarder la Nouvelle-Calédonie, à la refonder, à la reconstruire, et on organisera des élections l'année prochaine.
Le membre du gouvernement estime aussi que la reprise des discussions est indispensable. Indispensable aussi l'unité des partisans de la France. Et elle est en bonne voie, assure-t-il.
On n'a plus le droit de jouer, en fait. Oui, il y a des gens qui ne s'aiment pas dans le camp non-indépendantiste, mais on n'est pas obligé d'être tous amis. On n'est pas obligé de passer nos week-ends ensemble. On n'est pas obligé de passer nos vacances ensemble. Mais clairement, on a l'impérieuse nécessité de travailler ensemble pour l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, ça implique de mettre nos égos de côté, tout le monde. C'est-à-dire que oui, il y a eu des chamailleries à un moment, mais là, il faut qu'on porte un projet ensemble. Si les non-indépendantistes, enfin en tout cas les partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, ne sont pas en capacité de porter un projet ensemble, qu'est-ce que ça va être pour discuter avec les indépendantistes à un moment ? Et je suis convaincu, et des premières discussions qu'on a, qu'on est en capacité de porter ce projet. Et un projet ambitieux, un projet de démocratie en Nouvelle-Calédonie, un projet qui favorise la création de richesses. Et j'ai confiance dans les uns et dans les autres pour participer à ça.
Une interview de Christopher Gigès à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h08.
Un marché de mamie particulier ce matin à Farino, puisqu'il est placé, vous le savez, sous le signe du célèbre verre de Bancoul. La fameuse fête n'a pas pu se tenir, hélas, dans des conditions normales en raison des événements, mais cela n'a pas empêché de nombreux gastronomes curieux ou habitués de venir tenter ou renouveler l'expérience. Témoignage.
J'en ai dégusté un, mais cuit. Et bon, écoutez, c'est bien, c'est bon, c'est sympa. C'est une découverte, hein, c'est une première.
C'est quelle recette, là? Parce qu'on sait qu'il y a pastis et ail.
Ouais, ail. On avait pris ail.
C'est très bon. C'est mou, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, c'est gluant, mais ça se mange.
C'est meilleur cuit que cru. celui-là, c'est celui au beurre maître d'hôtel. Vous avez testé les deux façons ? Oui, j'ai même fait un concours de bouffage, quand c'était encore ce type de concours. Parce que là, cette année, c'est particulier. En fait, nous, on habite à Focola, en bas de Farino. Et du coup, on vient tous les ans. Et là, c'était la première fois que ma petite, elle est toute jeune, elle a 16 mois. Et du coup, j'ai voulu lui montrer les verres cette année. Et là, elle va goûter. Alors, elle pourra pas vous dire si elle aime, mais on dirait qu'elle en veut en tout cas. Mais je les mange cuits du coup. Je suis fait ma difficile.
Ça a un goût un peu boisé, un peu. C'est une saveur douce. Ça va, c'est bon.
Vous avez goûté quelle recette ?
Flambé au pastis, avec un camari marseillais, obligé.
C'était excellent, très juteux. Fabuleux, oui. C'était vraiment très bon. Ils sont gros cette année en plus.
J'ai goûté cru. Au début, c'était vraiment psychologiquement, ça avait bizarre, mais en fait, c'est un petit goût d'amande. Et cuit, c'est vraiment différent. Effectivement, on sent la coco, c'est bon. Ouais, c'est très bon.
Le cru, j'ai eu un peu de mal quand même. C'est assez juteux et tout ça, mais bon, au bout d'un moment, ça va, on s'habitue un peu. Et là, le cuit, franchement, ils ont fait une petite marinade sympa aux herbes. Non, franchement, ça va. Ça va. C'est peut-être pour ça qu'il y a le mot cool dans Bancoul.
Voilà, témoignage recueilli ce matin à Farino par Léana Colombo. Bonjour, Ghislaine Arly.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la responsable de ce marché de mamie. C'est cool, le verre de Bancoul. On a trouvé un slogan, là, non ?
Oui, c'est vrai. En effet.
Vous êtes satisfaite de cette fête. On sait bien qu'elle ne se déroule pas, malheureusement, dans les conditions habituelles. Mais enfin, il y a tout de même pas mal de monde.
Oui, oui, nous sommes très satisfaits parce que vraiment, les gens ont participé. Il y a eu beaucoup de monde. Les gens ont joué le jeu. Nous avons eu une fouille de verres pour déguster les verres crus. Et nous avons eu notre dégustation à 11h. Là, tout le monde a fait le plein. Et en plus, il y avait énormément de verres. Donc, il y en a eu pour tout le monde. Il n'y a pas eu personne déçu. Tout le monde était plutôt heureux. On a pu goûter de deux façons cuisinées. Donc, vraiment, c'est une belle journée pour nous. Et surtout, ben, les gens ont bien vendu. Voilà, c'est ce qui est important aussi pour nous, hein.
Et évidemment, en cette période, c'est important de se retrouver, évidemment pour les commerçants, pour les artisans, mais aussi pour les citoyens, tout simplement, de se remettre à échanger.
Oui, bien sûr, les gens sont heureux, il y a de la musique, de l'animation, c'est la fête, quoi, hein. Donc les gens avaient vraiment besoin de ça. Tous ceux à qui je parle me disent, on est heureux d'être là, on est heureux de vous retrouver, de revenir sur Parino, de cette petite ambiance conviviale et chaleureuse. Les gens ont vraiment besoin de ça, donc moi je suis très heureux que ce soit bien passé, surtout que les gens soient heureux, c'est le principal.
Alors vous nous aviez annoncé, Ghislaine Arly, vendredi, qu'il y avait une sorte de scoop, des achats au verre de Bancoul.
Oui.
Comment ça se passe?
Ben voilà, la personne nous a dit qu'ils avaient bien nettoyé ça, ils en étaient dégorgés des verres et tout, ils les ont nettoyés, et puis ils ont fait leur achat, ils ont fait hacher avec donc de l'ail, du persil et des oignons, et puis voilà, avec un peu de curry. Et là, ce matin, je l'ai fait déguster au niveau du café. Mmh. C'est impressionnant, les gens au café, ils ont mangé des morceaux de pain avec des hachards de verre de Bancoul. Ils étaient en santé, tout le monde a été en santé, tout le monde a aimé ça en tout cas.
On imagine que Mamie Fagliani serait heureuse de ces nouvelles recettes.
Elle est très présente avec nous parce que Mamie, c'est le papillon bleu. Et depuis ce matin, on a des papillons bleus partout.
Merci.
On y croit fort.
Merci, Ghislaine Arly, d'avoir été en direct avec nous, responsable du marché de Mamie. Et on espère évidemment que l'année prochaine, on reviendra à la fête traditionnelle que les Calédoniens
voilà,
aiment tant.
Pas de souci. Merci à tous et des bonnes journées.
Merci, Ghislaine Arly, d'avoir été avec nous dans ce journal.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Bouloupari, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
À Nouméa, rien n'arrête les poissons. Ce n'est pas un jeu de mots. L'Aquarium des Lagons propose en effet depuis le 2 septembre dernier une nouvelle thématique à ses visiteurs. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les poissons à travers diverses animations pour les petits comme pour les grands, Charlotte Coulson.
Le vrai monde de Nemo enfin révélé, c'est la thématique de l'animation qui réunissait les petits et leurs familles ce matin. Le but, en apprendre plus sur les spécificités du poisson clown et de manière divertissante. Gilles est bénévole à l'aquarium depuis 8 ans, il anime pour la première fois cette activité. Sur place, de très jeunes enfants venaient redécouvrir le film Le monde de Nemo et tenter de répondre aux questions de l'expert en poisson clown.
Alors en fait, on parle du monde de Nemo, mais c'est surtout le papa qu'on va voir.
L'animation part sur des séquences de films de Walt Disney, Le monde de Nemo, et le but est de montrer le vrai du faux, montrer ce qui est romancé dans le dessin animé et ce qu'il en est réellement dans la vie naturelle. Un petit exemple, Marin, qui est le papa de Nemo, va parcourir des milliers de kilomètres, alors que dans la réalité, le poisson clown ne s'échappe jamais à quelques centimètres de son anémone.
Pourquoi est-ce qu'on appelle le poisson clown le poisson clown? Alors, dans le dessin animé, il donne une réponse.
Ben, j'aime bien parce que j'aime bien voir les poissons en fait.
En fait, ben, il a un papa, mais au début, ben, en fait, il y a un maracuda qui vient manger tous les bébés poissons clowns, mais après, ben, il en reste un.
Et une animation trimestrielle à retrouver tous les jours à l'aquarium des Lagons, de 15h à 17h et également à 10h le week-end.
Il est midi et quasiment 15 minutes. Dans un instant, l'actualité en métropole.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale, c'est la suite d'Info Week-end. On retrouve Gilles Ménage.
110 000 manifestants dans toute la France, dont 26 000 à Paris, selon la préfecture de police. Les manifestations qui entendaient dénoncer un coup de force du chef de l'État à l'appel de la France insoumise n'ont pas eu le succès escompté. Loin de là, à Paris. Le défilé qui s'est déroulé entre la République et la Nation a d'ailleurs été maillé par quelques incidents en raison de la présence de militants radicaux d'extrême gauche. 3 personnes ont été arrêtées. Beaucoup moins de monde que prévu, donc, dans tous les cortèges, mais des manifestants très en colère, comme à Marseille, où s'est rendue Nina Pavant pour Europe 1.
Odile n'en démord pas pour elle. Michel Barnier à Matignon, c'est un déni de démocratie.
Je dénonce le fait que Macron se permette de refuser le vote populaire. En plus, au-delà de Barnier aujourd'hui, c'est Le Pen demain qui nous attend. C'est-à-dire que le RN il va lui dire « Vous faites ça, sinon on vous censure. Vous faites ça, sinon on vous censure. » Donc je veux dire, le RN tient les rênes du gouvernement aujourd'hui.
Et il aura fallu attendre plus de 50 jours pour au final avoir un Premier ministre républicain inentendable pour Julie.
Tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'ils auraient pu nous chier dessus tout de suite. Hein, on aurait gagné 2 mois. Excusez-moi, il y a beaucoup de colère. Je suis grossière. Mais je trouve qu'on est en train de vivre un moment qui est hallucinant, en fait.
Léon, la vingtaine, lui, attend aujourd'hui soit la censure du gouvernement Barnier, soit la destitution d'Emmanuel Macron.
Le Front républicain n'existe plus, en fait. Le Front républicain, maintenant, c'est ensemble les Républicains et le RN, alors qu'à la base, c'était pas censé être comme ça.
Prochain rendez-vous pour ces manifestants, mardi 10 septembre, nouvelle mobilisation avec les syndicats d'enseignants. Marseille, Nina Pavant, Europe 1.
Et de son côté, le Rassemblement national n'entend pas participer au désordre institutionnel. C'est ce qu'a répété hier soir pour nous le président du parti Jordan Bardella à l'issue d'un déplacement à la foire de Châlons en Champagne.
J'attends d'écouter le nouveau Premier ministre dans son discours de politique générale. Je ne veux pas ce désordre institutionnel auquel la gauche appelle encore aujourd'hui dans des manifestations. Je jugerai le discours du Premier ministre sur pièce. Et s'il n'est pas satisfaisant, si les préoccupations que nous portons ne s'inscrivent pas dans son discours, eh bien, à ce moment-là, nous nous réservons le droit de censurer le gouvernement. Cette réforme des retraites est injuste et par conséquent, nous continuerons de défendre à l'Assemblée nationale un départ beaucoup plus tôt pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans parce qu'il y a des millions de Français qui font des métiers difficiles dans notre pays et qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler longtemps en bonne santé. Donc nous serons extrêmement vigilants. En tout cas, le combat continue, le combat commence.
Le nouveau Premier ministre est sous surveillance du Rassemblement national, a encore déclaré Jordan Bardella. Et Michel Barnier lui a répondu. Le Premier ministre effectuait son premier déplacement officiel. C'était à l'hôpital Necker à Paris.
Moi, je suis sous surveillance de tous les Français. Le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français et de tous les groupes politiques qui sont constitués de députés représentants du peuple dans sa diversité.
Michel Barnier qui, sur le sujet de la santé, a précisé « Nous pouvons faire des progrès ». Mais nous ne pourrons pas faire de miracle.
À Radio Rythme Bleu, il est 12h18.
Au lendemain des 17 nouvelles accusations de violences sexuelles portées contre l'abbé Pierre, le choc est immense au sein de la communauté d'Emmaüs. Le mémorial qui lui est consacré en Normandie, où il est enterré depuis 2007, va fermer ses portes définitivement. Et la fondation qui porte son nom va changer de nom. Annonce confirmée par le directeur général de la fondation, Christophe Robert, qui a pris la parole pour la première fois depuis ces nouvelles révélations.
Nous avons pris la décision difficile de changer de nom. Personne ne pourrait comprendre qu'au moment où, sur la place publique, sont affichés ces faits extrêmement graves, extrêmement douloureux, commis par l'abbé Pierre, nous ne fassions rien, nous ne prenions pas des décisions. Alors c'est difficile, il ne s'agit pas de renier tout ce que l'abbé Pierre a fait dans la lutte contre l'exclusion, tout ce qu'il a entraîné, tout ce qu'il a pu créer comme initiative positive. Non, ça appartient à l'histoire et c'est bien vrai, il ne s'agit pas de le nier. Mais nous avons un combat à mener. Avec les bénévoles, les salariés, les donateurs. Et si on restait sans rien faire, c'est-à-dire se limiter à ce travail très important de transparence, de reconnaissance de la parole des victimes, ce serait bien insuffisant. Donc, nous avons pris la décision de changer de nom.
Et Christophe Robert, le directeur général de la Fondation, qui va donc changer de nom. À l'étranger, Kiev revendique une frappe sur un dépôt de munitions russes d'une région frontalière ce matin. De son côté, Moscou annonce avoir pris le contrôle d'un nouveau village dans la région de Donetsk. La Russie poursuit son avancée face à une armée ukrainienne en infériorité numérique. Nous ne devons pas baisser les bras, a lancé ce matin la première ministre italienne Giorgia Meloni au président Volodymyr Zelensky, qui est actuellement en déplacement en Italie. Dans un instant, le sport.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Jusqu'au vendredi 20 septembre, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif, offert par l'hôtel de Poé ainsi que deux vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 3146. L'hôtel de Poé et Cap ULM vous accueillent toute l'année dans une ambiance conviviale et familiale. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Attention, tirage au sort vendredi 20 septembre à 14h, 148 francs le SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Gilles Ménage, on salue tout d'abord notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
L'actualité sportive et les Jeux paralympiques à la une avec l'avant-dernière journée de compétition qui a livré son lot d'émotions à Paris.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Avec en point d'orgue aujourd'hui Michael Geneschi, la médaille d'or décrochée par l'équipe de France de cécifoot.
Et oui, ce sont les stars du jour. Les Bleus ont réussi à remporter une finale au bout du suspense contre l'Argentine, ce qui faisait penser évidemment à la dernière finale perdue par Mbappé et ses coéquipiers en Coupe du Monde. Cette fois, l'équipe de France des déficients visuels a d'abord ouvert le score avant de voir les Argentins égaliser. Et c'est donc dans l'épreuve fatidique des tirs au but que les tricolores ont remporté le sacre. C'est le premier titre des Français dans cette compétition. Hakim Azerki est l'un des joueurs de cette équipe de France de cécifoot.
C'est beaucoup d'émotions en fait. On a vraiment conscience de ce que c'est que de porter le maillot de l'équipe de France. On porte les valeurs de la France, l'histoire aussi. Forcément, rentrer dans cette compétition avec l'hymne française et en plus au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel, c'était vraiment un moment unique et on le gardera, je pense, ce souvenir à vie. C'est pas possible autrement.
Voilà pour ce sacre de l'équipe de France de cécifoot. Au cours de cette avant-dernière journée de l'Olympiade parisienne, le camp français a enregistré pas moins de 10 podiums, dont 2 médailles d'or. Le cyclisme sur route a une nouvelle fois vu les Bleus briller, notamment le relais par équipe H1-5 qui remporte le titre avec Mathieu Bosredon, Florian Joigny et Joseph Rich. Autre podium du cyclisme sur route dans la catégorie C1-3 où le duo Thomas Perroton d'Arthez et Alexandre Léautey a décroché l'argent et le bronze. Le para-judo est aussi venu ajouter 3 médailles de plus au palmarès français avec du bronze pour Cyril Jonard et Jason Grandi et de l'argent pour Elios Latchoumanaya. Et encore une médaille d'argent bien méritée pour Lucas Didier, cette fois en para-tennis de table dans le tournoi en simple MS9. Enfin en para-canoë, Rémi Bouillet, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo, a remporté encore une fois le bronze sur le 200 mètres kayak. Alors, au tableau des médailles et à la veille surtout de la clôture de cette Olympiade, la France est au 8e rang du classement. 19 médailles d'or, 27 d'argent, 28 de bronze pour un total de 74 podiums. La Chine fait toujours la course en tête. 216 médailles, dont 94 en or pour devancer le Royaume-Uni et les États-Unis. Parmi les dernières épreuves ce soir, on suivra notamment le marathon avant demain matin la cérémonie de clôture de ces Jeux paralympiques 2024.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et le sport, c'est aussi la reprise du championnat de France de rugby. Michael, les clubs du top 14 sont repartis à l'assaut d'une nouvelle saison.
Oui, une première journée qui aura déjà vu les victoires de Bayonne sur Perpignan, 21 à 19. Clermont qui s'est largement imposé sur Pau, 39 à 7. Castres l'a emporté face au Racing 92, le nouveau club de Romain Taufé-Fénois, 31 à 28. Et puis Lyon a battu Montpellier, 26 à 22, tandis que l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposé sur le Stade français 46 à 26. Demain, on aura droit à un choc entre le Stade Rochelais et le RC Toulon à partir de 2h du matin. Puis à 6h, le champion de France en titre, le Stade Toulousain, ira découvrir le terrain du club de Vannes en Bretagne, le promu cette année. On écoute le demi d'ouverture du Stade Toulousain, Romain Tamac.
Derrière les Vannetais, je pense qu'ils ont un public qui est plus... qui n'est plus à démontrer, qui est toujours là derrière son équipe. Donc on a hâte aussi de découvrir le public breton et évidemment en parlant de l'équipe de Vannes, qui est une équipe qui mérite largement sa place en top 14, qui travaille depuis des années dans la continuité avec son staff, son effectif qui s'étoffe d'année en année. Et je pense qu'on va s'attendre évidemment à un gros combat, une équipe qui joue très bien au rugby et qui a très peu finalement de points faibles. Donc voilà, on essaie de préparer au mieux ce match-là.
Un match Vannes-Toulouse, le top 14 qui débarque en Bretagne. Ce sera à suivre à partir de 6h05 ce lundi matin. Et puis le rugby, c'est aussi le championnat des nations de l'hémisphère sud et les All Blacks qui ont encore été battus dans le championship. Les Néo-Zélandais se sont inclinés pour la deuxième fois d'affilée sur le terrain des Springboks sud-africains 18-12. C'est la troisième défaite de la Nouvelle-Zélande tenante du titre dans cette édition. De son côté, l'Argentine a étrié l'Australie 67-27.
Sur le terrain de football, à présent, on joue la suite de la Ligue des Nations.
Avec notamment l'Allemagne qui a surclassé la Hongrie, 5-0 en faveur de la Mannschaft. Les Pays-Bas ont de leur côté dominé la Bosnie-Herzégovine, 5-2. L'Angleterre a battu l'Irlande, 2-0. Et je rappelle qu'hier, l'équipe de France s'était inclinée face à l'Italie, 3-1. Les Bleus qui retrouveront la Belgique pour la deuxième journée, ce sera dès mardi matin.
L'actualité du tennis, Arina Sabalenka a remporté le titre à l'US Open.
La Bélarusse qui gagne son troisième titre en Grand Chelem en disposant de l'Américaine Jessica Pegula, 7-5. La numéro 2 mondiale s'était inclinée dans cette même finale de l'US Open l'année dernière contre l'Américaine Coco Gauff. Arina Sabalenka qui s'était déjà imposée à Melbourne en début d'année. Chez les messieurs, demain matin, l'Italien Yannick Sinner sera opposé à l'Américain Taylor Fritz.
Du cyclisme et plus qu'une étape à courir pour le Tour d'Espagne.
Le sacre s'approche pour Primoz Roglic. Si la victoire sur la 20e étape est revenue à l'Irlandais Eddie Dunbar, le Slovène 3e du jour a su conserver la tête du classement général. Il avait récupéré hier le maillot rouge des épaules de l'Australien Ben O'Connor. Roglic compte 2 minutes 2 secondes d'avance seulement sur l'Australien de la formation Decathlon AG2R La Mondiale à la veille de l'arrivée à Madrid.
Un coup d'œil à présent à l'actualité des sports mécaniques.
Et en MotoGP, avant le Grand Prix de Saint-Marin, la victoire de l'Espagnol Jorge Martin sur la Sprint Race devant Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo s'est classé 9e, Johan Zarco a terminé 14e. Le Grand Prix sera à suivre ce soir dès 23h, heure de Nouméa. Et puis en rallye, le Belge Thierry Neuville est leader de l'épreuve grecque du championnat du monde WRC. Il devance Dani Sordo, son coéquipier Hyundai, et le Français Sébastien Ogier, 3e après avoir été victime de problèmes mécaniques hier. Il reste encore 3 spéciales à courir ce week-end.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie, c'est du football, Mickaël, avec la sélection qui a lancé son cycle de préparation aux éliminatoires à la Coupe du Monde.
La sélection senior jouait son premier match d'un cycle inédit, étant donné la situation que traverse la Calédonie. Des matchs donc planifiés face à des clubs au stade Noumadélé. Les Calédoniens se sont imposés hier face à l'équipe de Tigaspor 2-1. L'important était de retrouver les terrains et aussi de permettre aux joueurs de se confronter même à des formations de clubs. Johan Sidaner, le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie.
Dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'était se rapprocher tranquillement de la date de compétition avec pour premier objectif de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. La mission, c'était vraiment de courir, de jouer, de se rassembler, et le match qu'on a été capable de faire nous donne satisfaction. Sans parler du score qui était anecdotique, on a plutôt mis en place ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir le ballon la plupart du temps et essayer de mettre à mal l'adversaire. Mais on est tombé sur une très bonne opposition de Tigac qui nous a permis d'avoir du temps de jeu et une belle opposition.
Est-ce que des sélectionnés peuvent se sentir menacés si face à vous, vous voyez des choses intéressantes?
Mais exactement, c'est le message qu'on leur a fait passer. La sélection n'est pas un dû et effectivement, il y a de la concurrence et dans tous les clubs, ils font partie eux-mêmes de clubs. Et là, c'est l'occasion aussi de voir des joueurs et l'évolution de tous les joueurs de Super League. On est très satisfait là aussi parce que ce soit dans l'effectif de Tiga ou dans celui de la sélection, on a vu 40 bons joueurs cet après-midi.
Le week-end prochain, l'équipe de Calédonie retrouvera l'AS Magenta, toujours à Noumadélé. On rappelle que la sélection calédonienne retrouvera la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 10 octobre pour lancer sa campagne de qualification en vue du mondial.